Pourquoi maintenant? Je sais pas. Je peux pas vous répondre du tout. Parce que sans doute que je me suis débarrassée d'un certain nombre de choses dans mes autres livres. Et que cette chose-là, qui était plus importante pour moi que les autres, a pris naturellement sa place. Une fois que j'ai été désencombrée, problème plus personnel, quand j'étais plus jeune.
Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je me disais que la vie était joyeuse, que c'était bon d'avoir 23 ans, un appétit immense et un corps pour l'assouvir. Clame, cette photographe qui vient de faire l'amour, de sans poignée, sans cérémonie, derrière une porte cochère, puis sur la moquette érodée d'un escalier, avec un inconnu poli et obscène rencontré dans une librairie. Le désir légitime tout, pour celle qui a fui à Paris au milieu de la nuit et dont les parents l'avaient promise à 15 ans, en banlieue de Cherbourg, au fils d'un couple d'amis vietnamiens. Une femme affranchie des hiérarchies familiales qui détourna le lit du fleuve, comme d'autres membres de sa lignée d'ailleurs, ce qu'elle comprendra lors d'un séjour au Laos pour les funérailles de sa grand-mère. Publiée cette rentrée aux éditions Actes Sud, L'imprudence est le premier roman semi-autobiographique d'une éminente scénariste de bande dessinée française, Lou Huifang, 45 ans, saluée pour ses collaborations avec Philippe Dupuis, Les Enfants Pâles, Nuages et Pluies, ou Frédéric Peters, L'odeur des garçons affamés. Fidèle au titre de son roman, emprunté à Bachung, elle interroge ses identités avec une langue mystérieuse, précise et musicale qui laisse venir les sensations et les interprétations. Au micro du jukebox littéraire de Radio Nova, Lou Huifang rencontre aujourd'hui une autre romancière de la rentrée, adepte, comme elle, d'identités multiples et qui apprécie, elle aussi, ce qui l'emporte ailleurs et autrement. Critique littéraire, parolière, chanteuse et danseuse du groupe Catastrophe, Blandine Rinkel, 28 ans, dévoile « Le nom secret des choses » chez Fayard, soit le roman de la mue d'Océane, étudiante vendéenne aux connaissances moyennes, entendre des classes moyennes, pour qui l'imitation est le jeu favori et qui va apprendre à savoir quoi penser du bruit infernal et ivre de la capitale, du snobisme codé de ses habitants au fil des métamorphoses que sa migration va engendrer dans son apparence, son langage ou à l'état civil. Cette manière que tu as de te forcer de prononcer des mots qui ne te ressemblent pas. Ton malaise est aussi flagrant qu'un mauvais doublage de film américain. Le livre, lui, invite à redoubler d'invention pour avancer démasqué. Au terme de cette interview croisée, l'émission sera conclue par une très belle reprise live du hit de Bronski Beat, Small Town Boy, par Catastrophe, enregistrée dans nos studios spécialement pour l'occasion. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de midi à 1h. Bonjour, Blandine Rinkel.
Bonjour, Richard Guettet.
Bonjour, Lou Huifang.
Bonjour, Richard Guettet.
Alors avant toute chose, je tiens à préciser que nous venons de trouver dans le studio une flûte. Que je vais laisser vraiment entre vous deux. Et si vous avez l'impression que votre interlocutrice dit des craques, joue du pipeau, eh bien vous pouvez le signifier grâce à cet instrument. Je vous vois, mais on pourrait très exceptionnellement se tutoyer car vos deux romans sont écrits à la deuxième personne du singulier. Vous parlez en utilisant le « tu », Lou, ce tutoiement est celui de l'héroïne qui s'adresse à son frère. Pourquoi ?
Parce qu'elle elle pense à lui quand elle vit des choses en dehors de la famille. Elle pense à lui quand elle vit des choses qu'elle ne peut pas lui raconter. Mais quand elle s'adresse à lui, elle s'adresse à elle-même aussi. C'est une manière de se poser des questions et d'essayer d'y répondre.
Blandine, votre « tu » est plus ambigu, peut-être que votre narratrice s'adresse au lecteur susceptible d'avoir vécu la même expérience qu'elle, peut-être aussi qu'elle s'adresse à une amie disparue dont la rencontre constitue la grande affaire relationnelle du livre, ou peut-être qu'elle s'adresse à elle-même. Et comme vous êtes aussi danseuse, j'ai envie de vous demander, c'est quoi tous ces tutus ?
Yes. Le livre a pu décoller
à partir du moment où le tu a été trouvé, sans doute parce que j'essaye d'écrire depuis la distance qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses propres gestes, vis-à-vis de... Mais en fait, écrire au tu m'a permis d'écrire depuis cette distance, de manière plus juste qu'au jeu.
Pour l'une et pour l'autre, quel est le point de départ absolu du livre? C'est-à-dire presque la première phrase, qui n'est peut-être pas la première phrase que l'on découvre dans l'ouvrage.
Moi, je dirais, Louis comme Fain. Blandine, le fait d'utiliser le tu a donné l'impulsion, en fait. Parce que, comme c'est l'héroïne qui s'adresse à son frère de manière mentale, et sachant qu'elle a avec son frère une relation très compliquée, assez conflictuelle, il y a dans ce tu une mise en tension, en fait. Le tu est chargé des choses qu'elle voudrait dire, qu'elle ne peut pas dire, des choses qui seraient comme une bombe qu'elle poserait dans sa vie. Et donc ce tu, c'est un peu comme... La petite goupille qu'on enlève et qui déclencherait à retardement une déflagration, voilà, qui ferait tout exploser.
Et vous vous souvenez de la première phrase ?
J'aurais aimé te raconter tout cela. À chaque fois que je te vois, je crois que je vais le faire. Ce soir-là, je crois encore que je vais me livrer, que tout basculera enfin.
Blandine ?
Alors moi, le vrai point d'impulsion de ce manuscrit, c'est quand j'ai perdu celui qui l'a précédé. J'ai perdu un premier manuscrit avant de tout... reprendre. Et j'ai tout repris en... Enfin, quand ça s'est déclenché, c'est quand j'ai compris que la narratrice allait changer de prénom, ce qui créait un avant et un après, ce qui dessinait une structure au livre, structure qui me manquait. J'avais que des paragraphes, des morceaux de texte, des phrases, des choses diverses et hybrides. Et soudain, ouais, l'idée d'un changement... Ben voilà, donner une structure.
Le manuscrit perdu avait c'était le même sujet que le nom secret des choses ?
Non, pas tout à fait. C'était une histoire d'amitié, pour le dire vite et mal. et en fait, en perdant le manuscrit, je me suis posé des questions sur sur mon inconséquence, sur moi-même, sur comment est-ce que ça peut arriver, en fait, de perdre un manuscrit, de ne pas avoir fait de sauvegarde, de pas s'en inquiéter davantage.
Vous savez combien de temps que vous étiez en train de travailler
dessus ? Depuis la publication du premier, donc un an et demi.
Vous avez tout perdu, le texte a entièrement disparu,
ouais,
il n'y avait
pas
de version...
Il n'était pas achevé, mais non, ouais, j'ai tout perdu.
Alternative, ouais.
Ouais. Et après, j'avais des petits... Comme j'écris beaucoup à la main, il y a quand même pas mal de choses, des pages que j'ai pu rattraper et fondre un peu autrement dans un texte qui a changé. Parce que je me suis dit, il faut que je parte du sentiment... non, mais du sentiment d'être minable, quoi. Que j'ai éprouvé d'être minable et d'être dans une forme de dualité vis-à-vis de moi-même. D'une certaine manière, de pas tellement m'inquiéter pour des choses qui pourtant m'inquiètent le plus... à savoir l'écriture, et de comme m'arranger, une certaine partie de moi, je me disais, mais a dû s'arranger pour perdre ça, qu'est-ce que c'est que cette partie-là ? Et je me suis dit, il faut que je parte d'elle, que j'écrive sur ça, sur ce sentiment-là, ce sentiment un peu, je sais pas, un peu quand on est ramené un peu à l'essentiel de ça, de ces petits arrangements, des petits mensonges, des petits...
De l'imposture, puisque c'est le titre de la première partie du livre.
Ouais.
Sentiment, c'est ça ?
Ouais, c'est
qui,
ça.
Qui est un sentiment qui court pendant de longues pages dans l'ouvrage.
Ouais. Ouais, et en fait, c'est en redémarrant sur l'imposture, ça a changé complètement la couleur de ce que j'écrivais, et ça l'a notamment rendu plus politique. C'est-à-dire que la première version du manuscrit... était dénué de réflexion sociologique ou politique. Enfin, il n'y avait pas de changement de milieu. Il y a un changement de milieu dans le livre, là, de milieu social,
je veux dire. Ouais.
Et ce changement de milieu social-là, il a dû être décrit à partir du moment où je voulais parler de l'imposture et de sa naissance. Comment est-ce qu'elle naît, le sentiment d'imposture, quoi. Comment est-ce que ça naît ? D'où est-ce que ça vient ? Et il m'a semblé que ça venait du fait d'avoir changé, d'avoir été arraché à un endroit pour être posé à un autre, et qu'à partir de là, il y avait une distance entre les deux endroits, entre les deux personnalités, entre les... Voilà.
Vous vous souvenez de la première phrase écrite de cette histoire, du nom secret des choses ?
De la deuxième première phrase ?
Ouais.
Non, mais c'était, à mon avis, c'est pas loin. Enfin, il y avait un prologue, mais qui était pas bien, qui participait une espèce de mensonge, enfin je sais pas, d'un truc pas bien. Mais après, la deuxième première phrase, c'est pas loin d'être la première du livre, je pense. Hein. Tu gardes de ton arrivée à Paris le souvenir d'un feu d'artifice sonore.
Eh hey mec, c'est Paris, tu m'entends? P-A-R-I-S, Paris. Respire le bon air, mais fais gaffe quand même. Tous les jours, des mômes meurent d'en avoir respiré un peu trop. Alors fais attention et marche dans les rues, va au hasard. À n'importe quel coin, n'importe quelle rue, tu rencontreras n'importe quel type qui te proposera n'importe quoi. Des diamants, si purs, mais prends-les dans tes mains, jette-les par terre, tu verras, ils se brisent comme du verre. C'est Paris, à Paris rien n'est pareil. Tout a tellement changé que ce n'est même plus une ville. C'est juste une grande poubelle. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, et à Paris, y'a rien à faire. Juste marcher dans les rues pendant qu'il fait jour. Et attendre, attendre qu'il fasse un peu plus chaud, qu'il fasse un peu d'amour. P, A, R, I, S. Eh hey mec, mec, comment t'appelles Paris? P-A-R-I-S. Non, 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 non. Paris, ça s'appelle M-E-R-D-E. Tu sais, tu dois trouver quelqu'un qui remplisse ton cœur d'amour ou de calmant, enfin de quelque chose. Parce qu'on arrive par erreur, par hasard et trop tard. Et la poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il n'y a plus de place pour nos déchets à nous. C'est Paris, Paris, ville de nos rêves. Et à Paris, y'a rien à faire, juste marcher dans les rues.
Le Paris désenchanté de Taxi Girl, c'était en 1984. Blandine Rinkel, Louis Fong. Vos deux romans parlent d'une fuite, celle de vos héroïnes. L'une fuit le Laos avec sa famille, l'autre fuit une ville imaginaire de Vendée, nommée Saint-Jean-des-Oies. Et vous faites toutes les deux une rencontre avec Paris, vous l'avez dit à l'instant, Blandine, et plus spécifiquement avec le regard des Parisiens sur elle, sur vous, en quelque sorte. Chez Lou, cela donne cette page que je vais lire. Comment sont les jours en France? Quelle est la vie d'une Française? Je souris. D'une Française, je ne sais pas. La mienne est complexe, pleine de double fond. Pourquoi demande-t-elle? Je prends un petit temps pour bricoler une explication avec mes quelques mots vietnamiens. Cela tient à ce léger décalage, dis-je. La carnation est à peine plus brune, la diction vierge de tout accent. Je pourrais ressembler à une Française, mais ce n'est pas le cas. Tout se joue sur le visage. La vie se décide à partir de là. J'aimerais penser qu'il n'en est rien, qu'il n'y a pas de déterminisme, que les individus éclairés peuvent échapper à ce genre de paramètres, mais c'est faux. J'ai grandi dans la banlieue de Cherbourg, et là, le comportement de tous ceux qui me regardent, quelle que soit leur perméabilité aux préjugés, est contaminé par cela. Phénomène à peine moins perceptible à Paris. C'est ainsi, au premier regard, cela est prononcé. Je ne suis pas d'ici. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, je sais qu'on le sait, et cette chose est posée là, entre les autres et moi. Ce n'est pas forcément tragique. Certains finissent par l'oublier, ils traversent l'indication première et ils regardent le visage nu. Nous nous rencontrons alors. D'autres s'en tiennent à cela et raisonnent par rapport à cette dissemblance. Je suis à leurs yeux la Vietnamienne qui ? Celle-ci fera défaut, elle est froide, distante, sournoise, ou bien excellera en toute chose, toujours discrète, serviable, travailleuse. L'exotisme de la Vietnamienne qui est une usine à stéréotypes dépréciatifs ou gratifiants. Ils disent la même chose, dans le fond, une xénophobie plus ou moins assumée.
C'est marrant parce que mon arrivée à Paris, ressemble au premier chapitre du livre de Blandine. C'est exactement le même sentiment d'émerveillement, de surprise, d'être chamboulé par tout ce qui arrive, cette frénésie, ce feu d'artifice sonore et de rencontre. Il y avait des choses dures aussi. Enfin, je pense qu'ils tiennent à la fois du fait d'être provincial à Paris. Je suis arrivée à 23 ans. À 23 ans, j'étais vraiment mal dégrossie. Et voilà, je pense que les gens de 23 ans de maintenant sont beaucoup plus matures que je l'étais à l'époque. Et donc, c'est avec une grande naïveté que je suis arrivée à Paris. Donc, c'était une grande claque. À la fois de la provinciale, mais aussi du fait d'être d'origine asiatique. On se cogne à des tas de préjugés très différents, là, ou très positifs, ou très négatifs, ou très concupiscents. Et on avance avec, on se fait sa cuirasse, et on fait avec. Mais on observe aussi, tout ça est très, très signifiant, tout ça vient de quelque part, hein. Et au lieu de le subir passivement, j'essayais de comprendre pourquoi, d'où venait tout ça, quoi. Ça développe une forme de compassion et puis une forme de sens de l'humour aussi par rapport à tout ça.
Chez Blandine, cela donne ça, être la marionnette d'un besoin de plaire avec un sentiment d'imposture, comme je le disais plus tôt.
Nova Book Box.
Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
Aimer la tour Eiffel, en être impressionné est de mauvais goût. Tu le comprends et cesses de t'émerveiller, jouant au snob sans comprendre pourquoi. Le snobisme, pour toi, n'est pas un jeu, pas une blague, mais une violence. Profondément, tu manques d'aplomb. Paradoxalement, tu manques aussi de retenue. De même qu'à l'université, tu apprends à simuler la compréhension, de même, à l'extérieur, dans les théâtres, les rues, les cafés, il te faut apprendre à manifester une constante légèreté, ou pour le dire autrement, à dissimuler toute gravité. Tu t'efforces, par exemple, de cacher l'effet produit par tes lectures, celles qui te mettent à nu. Tu apprends à maîtriser ton visage, à maquiller ce que tu éprouves, à mépriser le dénuement. Les premières semaines, tu ris trop fort, tu pleures trop vite, tu as du mal à doser, à garder pour toi, à cesser d'être étonné par tout ce qui arrive. Pourtant, tu connais ce trait caractéristique de ton nouvel entourage. Les autres ne sont pas surpris. Jamais tremblant, à peine troublé. Au sortir d'une pièce de théâtre où vous vous rendez ensemble, tu observes Paul et les autres ingérer des informations sans en avoir l'air, écoutant l'air confiant, leurs interlocuteurs, les leur révéler en acquiesçant aux phrases les plus aberrantes, avec un sourire, éternellement calme, éternellement au courant, comme s'ils savaient toujours par avance ce que pourtant ils apprenaient. Peu à peu, ce masque de sérénité s'intègre aussi à tes traits. De ces années d'imitation discrète, tu garderas un sentiment de traîtrise.
Putain, où sont mes lunettes ? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi ?
C'est quelque chose que j'ai ressenti, moi aussi. En arrivant à Paris il y a 15 ans, j'avais 22 ans, un peu comme vous, Lou, issu, comme vous deux, des classes moyennes. C'est comme ça qu'on devient parisien ?
J'ai bien aimé l'expression qu'arrivant à Paris, la naïveté prend une claque.
Ouais.
Je crois que c'est très juste. Je trouve intéressant aussi que ça soit quelque chose du corps qu'il faut réfréner, qu'il faut apprendre à maîtriser. Le rire un peu trop fort, le fait d'être émerveillé. Je me souviens d'envie de danser très spontanée, mais en fait, qui n'arrivait pas au bon moment, dont je sentais qu'elle paraissait bizarre, qu'elle paraissait un peu à côté. Et il y a une expression qui... Enfin, je trouve que dire que les choses sont gênantes, c'est gênant, c'est embarrassant, c'est... C'est quelque chose que j'ai appris à Paris, que j'avais pas éprouvé avant. Pas de cette manière-là, en tous les cas. Pas tout le monde d'accord sur la même chose qui serait la chose gênante.
Ma vie, vue depuis plus tôt, n'est qu'une hypothèse plutôt ridicule.
Aria 140.66, portée par la voix sublime de Makeda Monet, chanson tirée du premier petit disque enregistré par Catastrophe, Dernier Soleil, chez Tricatel en 2016. Morceau fabuleux qu'il ne joue plus en concert, ce qui m'attriste parfois. Catastrophe sera en live le 3 octobre à Toulouse, le 12 à Sannois, le 18 à Nancy, le 25 à la Maroquinerie de Paris, où, tiens donc, mais c'est super chouette, avec nous à la fin de cette émission. Je suis toujours en compagnie de la chanteuse et parolière de Catastrophe, Blandine Rinkel, pour la sortie de son second roman, Le nom secret des choses. Blandine Rinkel, qui n'est pas seule aujourd'hui dans les studios du Jukebox littéraire de Radio Nova, puisqu'avec nous, il y a aussi la romancière et scénariste de BD française, Louis Fang, pour son roman L'imprudence. Blandine Rinkel, Louis Fang, vous avez toutes les deux un point commun qui est le cœur du roman de Blandine. Vous avez toutes les deux changé de prénom. Celui que vous portez aujourd'hui n'est pas celui qui a longtemps figuré sur votre carte d'identité. Vous en avez volontairement changé. Alors, Maëva, Caroline, est-ce que je peux vous demander de nous expliquer ce que ça a changé pour Blandine et pour Lou? Qui veut commencer? Entre vous quatre, si j'ose dire.
Bon, en fait, j'ai 5 prénoms.
Waouh!
J'ai 5 prénoms.
Vous êtes très nombreuses.
Je suis multiple. J'ai 5 prénoms parce que mon père est chinois, ma mère vietnamienne, je suis née au Laos. Donc j'ai un prénom chinois,
qui est
vietnamien. Huy Phang, un prénom vietnamien qui est Phi Van, un prénom là aussi un qui est Pet, donc français. Le cinquième est un...
Française Caroline.
Caroline. Et le cinquième est un surnom. On a toujours utilisé celui-là quand j'étais petite, qui est Titi, qui veut dire tout petit. J'ai trois noms de famille. Donc voilà, retrouver Caroline, c'était un nom qu'il fallait prendre. Il fallait un nom français pour avoir la nationalité française. J'ai choisi Caroline parce que Pet, c'est très dur à porter quand on est petit. Même si ça veut dire petit diamant, voilà. Les enfants n'entendent pas ça.
Bizarrement. Voilà. Les enfants sont cruels, comme nous le savons.
Et donc j'ai demandé à ce qu'on m'appelle Caroline, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause des livres pour enfants.
De la tortue dans Boulébile
Non, je crois pas. Non, il y a une petite blonde avec des couettes qui s'appelait Caroline, ça vient peut-être de là. Mais c'était comme marcher dans des chaussures qui n'étaient pas à ma taille. Donc fallait bien en avoir, mais c'était pas très confortable. Et puis un jour, j'étais invitée dans un festival, on m'a demandé, on vous appelle comment, Lou, Caroline? J'ai dit, tiens, on va essayer Lou.
Alors, Lou, c'était parce que vous ne l'avez pas cité jusqu'à présent?
C'est mon nom de famille chinois.
Ah oui, d'accord, ok.
Mais
vous appeliez Caroline Lou?
Non, je m'appelais Caroline Poutavi, qui est un nom laotien.
D'accord. Et Lou était marqué quelque part?
Lou était marqué. Lou est mon nom chinois historique. Hein.
Ok.
Mais comme on était au Laos, on avait un nom laotien.
Pouah, ça fait vraiment une constellation d'identité qui est vraiment, pour la romancière et la scénariste que vous êtes devenue par la suite, c'est déjà très très riche.
Oui, c'est je
suis un
oignon.
Pouvoir changer de masque, vous venez de déclarer je suis un oignon.
Je suis un oignon.
Très bien.
Avec beaucoup de peau.
Ok.
Et donc, Lou est le nom historique, c'est un nom très ancien d'un vieux clan qui remonte au Xe siècle en Chine. Il y a un village où est né mon arrière-grand-père qui s'appelle le village de la Maison des Loups, où vit ce clan. C'est pas une famille consanguine, c'est des gens qui s'appellent tous Loups. Et voilà. Et donc, je m'appelais Caroline pendant très longtemps.
Quoi, un 15 ans, 20 ans?
Entre, on va dire, 2, 3, jusqu'à 25, une vingtaine d'années, on va dire. Et même plus, non, peut-être presque 30 ans. Et le fait qu'on m'appelle Lou pendant ce festival m'a fait une sensation inouïe de confort incroyable, en disant, c'est ça, je vais garder ce nom-là, mon vrai nom de famille. J'osais pas demander aux gens de m'appeler Huy Phang, je me suis dit, ils vont l'écorcher, ça va pas aller, ça va être compliqué. Donc Lou était beaucoup plus simple, et depuis, j'ai même demandé aux personnes qui me connaissaient d'avant ce festival, les amis et tout ça, de m'appeler Lou.
Ah oui.
Voilà. Donc je pense que ça a fait plus de choc à mon entourage qu'à moi-même.
Mais depuis que vous avez pleinement choisi ce nom Lou Huy Phang, qu'est-ce que ça apporte à partir du moment où vous faites ce choix définitif, le nom d'artiste et puis aussi le nom d'usage?
Qu'on m'appelle Lou une fois pour toutes, ça rassemble tout. Et comme c'est le nom le plus ancien que je porte, qui existe depuis des générations et des générations bien avant... moi, bien avant tous ceux que je connais, c'est comme une verticale qui m'ancre quelque part. Pas dans une terre, mais dans une histoire. Dans une histoire que je ne connais pas, ou très peu, mais qui devient ma mythologie.
Je me tourne vers Maëva Henkel.
Quel abus. Je trouve ça fascinant, cette affaire de prénoms multiples. Ça me fait penser récemment à quelqu'un qui m'a dit que Nadia Léger, qui est une peintre, qui était l'épouse de Ferdinand Léger, avait 12, je crois, noms. Enfin, elle a changé soit de prénom, soit de nom. Mais à chaque fois, ça faisait des combinaisons différentes, 12 combinaisons différentes. Et que ça a été avec des changements dans sa peinture, dans sa manière même de faire les traits. Et dans mon cas... je pense que le fait de changer de prénom m'a fait écrire un peu différemment, m'a fait m'habiller un peu différemment, m'a vraiment été avec une sorte de changement d'esprit global, de manière d'être un peu global.
des choses qu'on s'autorise à faire ou à ressentir, ou c'est comme on enlève un vêtement qui nous va pas et qui était un peu lourd, et d'un seul coup on bouge autrement.
On fait une mue en quelque
sorte,
qui est un thème important de votre roman Blandine.
Ouais, ouais. Ouais, qui a presque failli être
le titre.
Ouais. Ouais, j'aime bien cette idée que en fait les animaux muent plusieurs fois, enfin toutes les espèces animales muent une ou plusieurs fois. Et les humains, chez les humains, la mue, c'est la voix. C'est strictement la voix. Donc ça se passe à la fin de l'adolescence, quoi. C'est ça qu'on... Et encore chez les hommes, mais qu'est-ce qui se passe chez les femmes? Qu'est-ce que c'est la mue chez les femmes? Je trouve que c'est une vraie question. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut muer? Est-ce qu'on peut muer plusieurs fois? Et c'est vrai que moi, le changement de prénom a été vraiment l'occasion d'une mue. Notamment parce que les autres vous voient différemment. Parce que changer de manière interne, bon, ça nous arrive, j'imagine, de manière un peu cyclique. Mais soudain voir que dans le regard des autres, vraiment, vous avez changé, et qu'ils s'en rendent même pas forcément compte, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'ont aucune idée du fait que j'avais un autre prénom avant de m'appeler Blandine. Et ça, ouais, ça fait un peu regagner, sinon le pouvoir, du moins de la puissance. Se sentir un peu puissant. Et puis moi, j'ai eu longtemps le sentiment aussi d'avoir un peu de retard quand je suis arrivée à Paris, je veux dire d'avoir du retard un peu sur les Parisiens, le sentiment de devoir rattraper, de regarder des pages Wikipédia toute la nuit pour rattraper plein de choses que je connaissais pas, pour être à la hauteur des hochements de tête que je faisais le jour. Et là, soudain, le fait de changer de prénom, c'était comme prendre un coup d'avance, avoir un coup d'avance sur les autres.
Vous étiez deux d'un coup.
Ouais, déjà. Et on était en complicité, ouais. Elle et moi. Ouais.
Et j'ai toujours trouvé étrange qu'on doive porter le même prénom toute notre vie, quelque chose qu'on n'a même pas choisi en plus.
Ouais.
Et choisir son propre prénom, c'est se réapproprier aussi.
Tribu en Alaska, j'ai peur de ouais, j'en parle dans le livre, je ne sais plus exactement le nom. Mais en fait, tous les enfants qui naissent n'ont pas de nom à la toute naissance et sont nommés par la première relation qu'ils entretiennent avec, je sais pas, un arbre, le ciel, donc on l'appelle celui qui regarde le ciel. Et puis, quelques mois après, on voit que, je sais pas, l'enfant serre très fort les choses. Et ben, on change son nom pour celui qui serre très fort les choses. Ça peut changer plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il ait lui-même un enfant et il garde le dernier nom qu'il avait, quoi, avant d'avoir un enfant. Ce que je trouve très beau, enfin, de donner un nom par la relation qu'on entretient avec les choses et avec le monde, plutôt que par l'identité. Enfin, moi, ça m'aurait pas mal convenu, correspondu.
Alors, je vous pose la question, justement, selon cette mécanique des prénoms d'Alaska, quel serait actuellement, sur l'année qui vient de s'écouler, votre prénom totémique à toutes les deux?
Je dirais celle qui déménage.
Oui, parce que vous venez de déménager à Bruxelles.
Voilà.
Ok. Elle déménage en
même
temps,
c'est bien.
Elle
déménage. Moi, il faudrait que je trouve... celle qui a trop de bras ou je sais pas. Un truc qui va vite, il faut trouver le bon.
Non mais franchement, celle qui a trop de bras, c'est
celle qui a trop de bras.
J'ai une amie, Vicky, son vrai nom est Suzy, on l'appelle Sou, je l'appelle Vi. Un jour le sud, le lendemain le nord. Grand Nord, je dors. Un jour c'est tout, le lendemain c'est que dalle. Ça passe mal, ça passe. J'ai une amie, Vicky, son vrai nom est Suzy, on l'appelle Sou.
Dimanche, la Book Box, c'est désormais le dimanche, et c'est aussi le titre de cette chanson planante qui réunissait l'an passé The Liminianas et Bertrand Belin. Belin, qui, le 10 octobre, à la librairie des Abbesses à Paris, lira de sa belle voix de crooner des extraits de L'Imprudence, le premier roman de Louis Fang, l'une de mes deux invitées d'aujourd'hui, alias celle qui déménage, que je suis ravi de faire dialoguer aujourd'hui avec Blandine Rinkel, dont le nom de code est donc celle qui a trop de bras.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
D'ailleurs, à ce propos, celle qui a trop de bras, à propos de ce changement de prénom, dans votre roman Le Nom Secret des Choses, vous décrivez ce passage, cette décision avec le sentiment d'être une traîtresse à sa classe.
Mais j'ai éprouvé cette affaire d'être un peu traîtresse aussi, tout simplement vis-à-vis de ma mère, qui a très bien pris le changement de prénom. Mais qui une fois m'a dit mais qu'est-ce qui n'allait pas
avec
le premier prénom et qui parfois me pose un peu des questions, enfin qui me dit quoi, c'est trop cheap, elle me montre des habits, des noms qu'elle aime bien et où elle voit bien que moi j'ai toujours honte quand elle me dit ah bah quoi, c'est trop cheap pour toi, je me dis toujours que je suis coupable quelque part, que je suis pas assez généreuse,
qui a encore un peu de honte.
Ouais. Et
après vous dites aussi que c'est pas la même chose d'être une grande blonde qui s'appelle Maëva en France depuis 20 ans ou 30 ans que de s'appeler Blandine. Il y a aussi
Vous êtes débarrassée. Alors dans le livre, elle s'appelle Océane, néanmoins ma narratrice. Mais moi, pour mon cas, oui, en effet, je m'appelais Maëva et c'est vrai que je pense que moi, c'est la première chose qui me gênait. Après, j'ai changé de prénom quand même pour. Il faut lire le livre qui quand même ressemble à la vie. C'était quand même c'était un jeu, c'était un pari, c'était pas une grande décision grave et lourde et
mûrement réfléchie. Non, bien sûr, c'est très ludique en l'occurrence, ce passage-là aussi.
Mais néanmoins, quand on fait les choses simplement, c'est quand même qu'elles sont comme un fruit qui serait mûr et qui tomberait de l'arbre parce qu'il a été mûri. Et en effet, moi, le fait de m'appeler Maëva, d'avoir un prénom qui finit en A, d'être grande, blonde, d'avoir un physique, disons, qui existe, et de ne pas forcément en être fière ou de vouloir jouer dessus, enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Maëva soulignait mon physique et ça, je me disais j'aimerais bien me débarrasser de ça. Et Blandine, de fait, m'en a débarrassé complètement.
Ouais.
Ça a été vraiment Richard, je me dis. Non, ça a été le changement majeur justement dans le regard des gens. C'est que ça, Blandine, je pense, induit, c'est un prénom bourgeois, ça je l'ai compris après coup, mais ça induit une distance, Blandine, mais qui finalement fait qu'on n'a plus l'espèce de truc un peu sexuel qu'il pouvait y avoir
avec Maëva
et qui m'embêtait.
Vous citez de manière allusive, toujours dans votre roman Le Nom Secret des Choses, le cas d'Édouard Louis, qui lui est allé plus loin et beaucoup plus radical, parce qu'il est devenu, je le rappelle, écrivain de fiction, en signant en 2014 un premier roman titré « Pour en finir avec Eddie Bellegueule », qui est son vrai nom de naissance. C'est un livre que vous avez lu, l'une et l'autre?
Ah oui,
Landine,
oui.
Ouais. Et oui. Cette idée de rupture avec le milieu familial, rupture avec le patronyme, ça vous a interpellé à l'époque?
Moi, à l'époque, ça m'a énervé.
Ah ouais.
Ça m'avait agacé, ce livre. Et en fait, c'est drôle parce qu'en écrivant Le Nom Secret des Choses, j'ai repensé à Édouard Louis et j'ai relu. Et notamment en écrivant le passage sur le changement de prénom, je me disais bien sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a fait de manière, médiatique et publique et qu'on est nombreux à connaître. Et en le relisant, je l'ai lu assez différemment. Et j'ai eu beaucoup d'empathie, en fait, pour sa colère. C'est la colère qui m'avait agacée, le fait qu'il détruise un peu son milieu d'origine, enfin qu'il passe ses parents à l'acide. Mon expression est atroce.
Non, mais en fait, c'est le sentiment que j'ai eu aussi à la lecture. Moi, je me suis dit, c'est incroyable à quel point il n'y a aucune volonté de réconciliation.
Non, voilà.
C'est-à-dire que c'est un grand brasier sur le passé. Et c'est vraiment...
Ouais.
Et du coup, c'est aussi ce qui m'est resté de plus fort du livre, d'être allé jusqu'au bout de ce geste-là.
Ça, ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que maintenant, il a pris du recul, de la distance géographique, géographique et sociale et tout.
Je crois que le dernier livre en date qui s'appelle « Qui a tué mon père » est déjà un geste de réconciliation.
Et du coup, j'ai complètement changé d'avis sur lui. Et je lui ai envoyé mon livre. Mmh. Et il m'a envoyé un message. Enfin, il l'a lu. Il m'a envoyé un message qui m'a beaucoup touchée. Autant Maëva, je pense, avait du mal à parler à Eddie Bellegueule. Mais pour des raisons qu'on comprend. Et autant Blandine et Edouard Louis peuvent
discuter. Échanger. Lou, celle qui déménage.
C'est marrant, j'ai pas ressenti de connivence avec le livre d'Edouard Louis, parce que j'ai pas du tout le sentiment d'avoir fait une grosse rupture sociale. C'est pas. C'est étrange, hein. Je vais y réfléchir en même temps que je parle. Mm-hmm. Mais même si ça a été assez violent, pour moi aussi, mon départ de la famille est assez radical.
Double départ, hein, je le dis pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, d'abord du Laos jusqu'en France et ensuite de la banlieue de Cherbourg jusqu'à Paris.
Oui, alors dans la vraie vie, j'ai pas fait autant de kilomètres, j'ai fait 4 kilomètres entre ma ville, la ville où j'ai grandi et Caen, où j'ai fait mes études. Mais c'était. C'est pas forcément contre une classe sociale ou contre un groupe d'individus. C'était contre quelque chose de plus abstrait, j'ai l'impression, contre un mouvement général, une pensée générale, celle qui a façonné mes parents, leur éducation, toute une vision du monde, en fait.
Très hiérarchisé, hein.
Très hiérarchisé.
Chacun est à sa place, on sort pas trop du cadre.
Oui, et puis l'individu n'existe pas. Mm-hmm. L'individu doit servir le groupe. Et ça, c'était quelque chose dans lequel je pouvais pas m'insérer, que je ne pouvais pas suivre et que je ne pouvais pas satisfaire, tout simplement. C'était pas forcément contre ça, mais c'était juste que ma place n'était pas là et qu'il fallait partir, fallait aller ailleurs pour me faire ma place à moi.
On va aller ailleurs justement, puisque votre roman L'Imprudence se déroule principalement, je le rappelle, au Laos, dans la ville de Savannakhet, la deuxième ville du pays, sur la rive orientale du Mékong. Avant de partir vers précisément ce territoire littéraire et géographique, est-ce que vous pourriez, Louis Fang, nous conseiller une chanson, voire ou un morceau venu de ce pays que vous auriez pu garder, qui compte pour vous, qui nous servirait de pause musicale?
C'est une certaine rythmique. Alors c'est une danse qui s'appelle le Lam Vang, voilà, qui est une espèce de danse assez chaloupée comme ça, que les gens dansent en rond avec des mouvements de mains.
Alors je précise que vous êtes en train d'exécuter cette danse,
voilà.
Actuellement derrière le micro, c'est assez gracieux, il faut le reconnaître.
Et tout est dans le geste du poignet, voilà. Il y a des espèces de cercles qu'on fait avec les mains comme ça. C'est la musique qui me vient en tête.
ลาวถึงลาวสูงลาวลุ่มปุ้มลุ่มกันสร้างสรรค์บ้านเมืองของลาวเฮาคนลาวบ่แม่นไทยอื่นเฮาคนลาวบ่แม่นไทยอื่นสุนศาสลาวอินเดียลาวศาสลาวเฮาภูมิกันอย่าได้แตกแยกอย่าได้แยกเผ่าพงพันพวกพี่มันจะยึดของลาวหลายปีที่พวกเราต่อสู้กอบกู้เอาเอกลักษณ์สันติภาพมาให้แผ่นดินห่มเย็นเฮาคนลาวบ่แม่นไทยอื่นเฮาคนลาวบ่แม่นไทยอื่นมาหยิบมาพร้อมกันก้าวเดินเดินหยิบเดินสร้างความปองดอง
allez, sois chou, lis-moi un bout.
Lors de mon premier voyage au Laos, j'avais 17 ans, j'avais des pâtes au gaz, un bermuda gris et des t-shirts bariolés. Les Laotiens et les Vietnamiens me prenaient pour une japonaise, et cela me désolait. Je rêvais d'un mimétisme parfait, d'une réintégration dans mon environnement natal. Je voulais être comme ces animaux de zoo, nourris de poulets congelés, qui, relâchés dans leur forêt originelle, retrouvent d'instinct leur stature de grands prédateurs. Déception immense. Au milieu des natifs, je n'étais qu'une touriste, ou pire, une traîtresse déguisée en occidentale. Je me sentais stupide et un peu vulgaire. 3 ans plus tard, j'ai réitéré l'expérience. Cette fois-ci, j'ai emprunté les vêtements de notre grand-mère. Ample pantalon noir, corsage blanc, sandales de caoutchouc. L'artifice n'a pas fonctionné davantage. J'étais une étrangère déguisée en vietnamienne, une exfiltrée occidentalisée, travestie en autochtone. Improbable pentimento. Les costumes n'y pouvaient rien. Quelque chose dans mon allure et ma gestuelle me trahissait. Quelque chose qui m'imprégnait désormais et transudait par chaque pore de ma peau. Quoi que je fasse, le Laos, et avec lui l'Asie tout entière, me recrachait comme un corps étranger. Alors vois-tu, toujours une Vietnamienne, tu as beau le hurler en me pointant du doigt, cela ne me convainc pas beaucoup.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours en compagnie des romancières françaises Louis Fang et Blandine Rinkel. Alors, Lou, ce passage de votre roman L'imprudence signifie-t-il que même ailleurs, même de là d'où l'on vient, on n'est toujours pas celui qu'on croit ou qu'on aimerait être?
Je crois qu'au bout d'un moment, on laisse tomber cette question de on croit être quelqu'un ou on doit être quelqu'un. Quand on est déplacé comme ça et qu'on a perdu son pays d'origine, on perd quelque chose qu'on ne peut plus récupérer. C'est comme si on vous déplaçait d'une trajectoire et cette trajectoire, elle disparaît, en fait. Et vous êtes ailleurs et c'est à vous de reconstruire une autre trajectoire à partir de ce que vous avez entre les mains, ce que vous portez sur vous.
Les traces se sont effacées.
Les traces se sont effacées. Et c'est une utopie de croire qu'en retournant au pays d'origine, la place, elle est restée vacante. Et il y a juste à se rasseoir sur le siège qui était resté libre. Ce siège-là n'existe plus. Et oui, on n'a plus de place. On est un touriste. On est un pur étranger.
Dans votre roman, Blandine Rinkel, Le non-secret des choses, il y a une histoire assez captivante qui se passe peut-être au Laos. Est-ce que vous pourriez nous la lire avec une voix mystérieuse?
Où avait disparu Jacques Vergès de 1970 à 1978? Où était-il, l'avocat de la terreur ayant défendu criminel de guerre, dirigeant Khmer, terroriste? À quoi pensait-il au moment de s'endormir durant ces 8 ans où sa famille n'eut plus de lui la moindre nouvelle? Il devait bien divaguer en regardant le plafond, lui aussi. Avait-il rêvé son départ du 24 mai 1970, dans la nuit, alors qu'il était attendu à Paris? Avait-il prémédité que Lindon, directeur des éditions de Minuit, serait celui à qui il assurerait être en bonne santé et libre, loin de la France? Façonnait-il ainsi sa légende, ou était-il tout simplement claqué d'être lui? Avait-il fui sa vie? Un soir, ma fenêtre s'est ouverte et le vent m'a soufflé « Pars !» Et je suis partie, pour des aventures qui ont duré 8 ans. Était-il au Katanga, pour une histoire d'argent, avec les Khmers rouges au Cambodge, comme l'a longtemps voulu la légende? Était-il à Cuba, ou, comme l'avancera Barbet Schroeder à la télévision en 2017, avec Wadi Haddad, avec les Palestiniens les plus sanguinaires? Je suis formelle, nous n'avons, à la DST, jamais su où avait été Jacques Vergès, affirmerait Monard, ancien patron du contre-espionnage français, dans le JDD en 2013. J'exclus complètement qu'il ait été chez les Russes. Avec tous les transfuges, après l'effondrement du bloc soviétique, nous aurions fini par l'apprendre. À mon avis, il n'était pas non plus chez les Chinois. J'avais posé la question à mes homologues algériens, et eux non plus ne savaient pas où se trouvait Jacques Vergès, durant ses 8 ans. Certains le pensent toutefois en exil discret, au Laos, ou en Thaïlande, où il aurait retrouvé des branches de sa famille, des compagnons. Lui affirme avoir migré très à l'est de la France, avec des amis qui avaient des responsabilités importantes pour diriger des événements majeurs dans lesquels son rôle, modeste, n'a jamais été révélé. D'autres, enfin, en sont convaincus. Après un court voyage où il vécut de grandes aventures soldées par un désastre, Jacques Vergès était parti habiter en banlieue parisienne. Le justicier s'était cloîtré, tout simplement, chez lui.
Au fil de l'eau, Lou, au fil de votre roman L'Imprudence, vous consignez des récits d'imprudence, des instants décisifs dans la vie de vos personnages, où ils ont emprunté une déviation, où ils sont sortis des clous pour se sauver la peau. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de votre grand-mère, l'enfant intrépide ?
Alors, ma grand-mère est née à Hue.
Qui
se trouve au Vietnam, l'ancienne capitale royale du Vietnam. Et elle est née dans une famille maltraitante. Ses parents la battaient, elle était très malheureuse. Et à l'âge de 12 ans, en rentrant de l'école, elle a décidé de ne pas aller chez elle, de partir. Donc elle est montée dans un bus qui faisait la navette entre Hue et Savannakhet.
Savannakhet qui se trouve
au Laos. Et elle est allée voir le chauffeur et elle lui a menti. Elle lui a dit « Je suis perdue, ma famille est au Laos, il faut me conduire à eux. » Et le brave homme ne pouvait pas laisser cette fillette toute seule, il ne pouvait pas l'abandonner, donc il n'avait pas d'autre choix que de la croire et de l'emmener avec lui.
Combien de kilomètres, grosso modo ?
Je dirais entre 300 et 500. Okay. Et arrivé à Savannakhet, il s'aperçoit qu'elle lui a menti, qu'elle n'a nulle part où aller. Et lui ne sait pas quoi faire de cette fillette. Donc il va voir une femme qui possède le plus grand restaurant de Savannakhet, qui est une femme donc aisée, mais qui n'a pas d'enfant, qui est très généreuse. Et donc il va la voir avec la fillette en disant « J'ai cette fille sur les bras, elle n'a personne, est-ce que tu veux t'en occuper ?» Et la femme a dit d'accord. Donc ma grand-mère a grandi adoptée par cette femme. Elle n'est jamais retournée à Hue.
Le titre de votre roman, Lou, fait naturellement penser à celui de l'avant-dernier album d'Alain Bachung en 2002. L'imprudence, cette hypnotique diamant noir. Quelle est votre chanson préférée du disque que nous pourrions écouter maintenant ?
Celui qui commence par « Laisse venir, à l'avenir, laisse venir ».
Laisse venir, laisse venir. Laisse venir, laisse venir. Tu perds ton temps à mariner dans ses yeux. Tu perds ton sang. Tel Attila, tel Othello, tu te noircis. Dans quoi tu te mires? Dans quel étang? À l'avenir, laisse venir. Laisse le vent du soir décider. À l'avenir, laisse venir. Laisse venir.
Je suis toujours en compagnie des romancières françaises Louis Fang et Blandine Rinkel. Une question sur Bachung, tiens, sur son écriture si particulière que le critique Pierre Lemarchand définit dans son essai sur fantaisie militaire comme le son plutôt que le sens, l'implicite plutôt que l'explicite, faire rupture avec la lisibilité pour offrir une vérité souterraine, une cartographie des sentiments qui ne peuvent être dites par l'univoque, ressentir plutôt que comprendre. Bachung rêvait de chansons que l'on pouvait comprendre par l'imagination ou idéalement par l'inconscient. Cela vous touche, l'une et l'autre, l'une ou l'autre?
Moi, je suis complètement hantée et guidée par Bachung depuis longtemps. Et ces mots ouvrent des portes, hein, ouvrent mon inconscient, m'aident à l'épuiser à des endroits que je ne connais pas. Et en effet, il y a un jeu des sonorités, beaucoup, plus que du sens chez Bachung, où quand le sens se raccroche, crée des torsions incroyables. Et j'ai compris dernièrement, en écoutant une interview de son parolier...
Jean Fauque ?
Non.
Le précédent, Boris Bergman ?
Oui. Qui expliquait que Bachung avait grandi en parlant allemand. Parce qu'il a été élevé par ses grands-parents.
En Alsace.
En Alsace, et qu'il parlait allemand. Et qu'ensuite, le français est arrivé. Et qu'il avait un décalage, comme ça, par rapport au français. Où, du coup, c'était presque comme une langue étrangère. Et qu'il avait une approche du français qui était très sonore, en fait. Et j'ai la même chose par rapport au français. Ma langue maternelle, c'est le laotien. J'ai arrêté de le parler à 5 ans. Je peux le parler encore en mettant beaucoup de temps à former les phrases, mais je peux le comprendre. Mais toujours le français, en fait, c'est comme une langue étrangère que je parle couramment. Et du coup, quand j'écoute les gens parler, j'entends les sons et je comprends aussi, mais j'entends les sons. J'entends l'effet que ça fait. Et du coup, quand j'écris, c'est un peu la même chose, je pense, que pour Bachung. J'ai l'impression, c'est qu'on assemble des sons. Et le sens vient se greffer à ça. Et on peut aussi bricoler des images en assemblant des mots qui ne vont a priori pas ensemble, en faisant une espèce de structure, d'assemblage, voilà, très, très étrange.
Blandine, puisque vous êtes musicienne et autrice de chansons, quels paroliers ou parolières nourrissent ou ont pu nourrir votre écriture?
Léo Ferré, je trouve que c'est des images un peu, presque des images d'un épileptique. Moi, je vois ça un peu comme ça.
Il
est en état d'épilepsie. Je sais pas, la solitude, par exemple.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
C'est pas ce que j'attends en tout premier lieu, les paroles, dans la musique. Quand je lis, oui, c'est vraiment le sens, même la musicalité des livres que je recherche. Et quand j'écoute de la musique, c'est autre chose, de l'ordre d'une atmosphère générale. Et en fait, il peut parfois y avoir des paroles complètement insignifiantes, voire des borborygmes. et ça peut me paraître très subtil et très gracieux et...
Lou Weifang, puisque ce roman, L'imprudence, dormait dans un tiroir depuis 5 ans, me semble-t-il, et que son accueil est pour le moment assez satisfaisant, je suppose que votre maison d'édition, Actes Sud, vous a déjà demandé si vous aviez autre chose sur le feu.
Ça Mais chauffe. Sans pression,
ouais, tranquillement,
juste
poliment, quoi.
Par curiosité.
Il y a quelque chose, ça chauffe.
Ouais, je crois. Ça chauffe,
c'est
ouais.
Un peu. C'est encore.
Ça chauffe.
Ça chauffe, non?
Wow. Ça déménage et ça chauffe.
C'est comme ça que j'ai l'écriture.
Ouais, ça chauffe, c'est bouillant, quoi.
J'arrive plutôt que ça chatouille.
Ça chatouille.
Ça chatouille, ouais.
Vous êtes chatouillé par celle qui a trop de bras, votre voisine?
Je l'écoute parler et ça me chatouille.
Ça chatouille, oui, bien sûr. Je sais, Lou, que vous préparez 2 scénarios de bande dessinée. Le premier, c'est une histoire prenant pour cadre l'âge d'or d'Hollywood avec le dessinateur Hugues Micol, l'auteur de Scalp, de La Planète des Vulves ou du récent et très marrant Saint-Rose, pour lequel vous aviez déjà créé en 2005 un anti-héros super-héros de Lichen dans Prestige de l'Uniforme. Pourquoi Hollywood cette fois?
Parce que c'est la décadence, parce que c'est la mythologie, parce que c'est le mensonge, parce que c'est le mensonge surtout. Et le mensonge, ça m'intéresse beaucoup. Les personnages doublent, les personnages qui se cachent, les personnages qui mentent sur ce qu'ils sont. C'est un peu une obsession chez moi. Donc Hollywood, c'est le cadre parfait pour parler de ça.
Et le second scénario, c'est le récit d'une expédition au pôle sud avec quel dessinateur?
Benjamin Bachelier.
L'angle du livre?
Alors, c'est inspiré de l'expédition ratée de Shackleton, ratée dans son objectif premier, mais complètement réussie.
1914-1917.
Puisque Shackleton avait entrepris d'aller en Antarctique avec 27 hommes et de traverser l'Antarctique à pied. Mmh. Malheureusement, le bateau a été pris dans la glace.
Qui s'appelle l'Endurance.
L'Endurance a été broyé et que Shackleton a dû sauver tout son équipage. En survivant dans le froid, en se déplaçant, enfin, c'est une histoire absolument ahurissante sur la résistance humaine dans tous les sens, physique et mental. Et donc avec Benjamin Bachelier, on raconte une histoire qui pourrait ressembler à celle-là, mais qui est une fiction et que je rattache à d'autres choses, à mes obsessions à moi, et qui devient une métaphore en fait. De la résistance de l'être humain face à la folie du monde. Où va-t-il chercher ses ressources? Et je pense que c'est dans sa propre folie qu'il peut trouver de l'énergie pour survivre.
Blandine Rinkel, avec votre groupe Catastrophe, vous travaillez depuis plusieurs mois sur une comédie musicale que vous répétez au 104 à Paris. Vous rentrerez en studio en novembre et montrerez ce projet en 2020. Le sujet, c'est le temps.
C'est tout à fait le temps. C'est le temps effréné dans lequel on vit, un temps interrompu en permanence, et peut-être le temps long qu'on cherche, chacun à sa manière. En tous les cas, nous, on le cherche.
Ce sont les émotions que le temps procure sur chacun d'entre nous.
Ouais, les personnages de cette comédie musicale sont chacun une émotion qu'on peut... L'inquiétude,
la colère,
la patience, là, voilà, on brouille les pistes en disant ça. Mais voilà, c'est un peu comme dans ce dessin animé que j'ai trouvé super.
Vice versa. Absolument. In and out.
Mais c'est pas
Pixar,
là, ça, voilà, je dis ça, c'est pas du tout. C'est pas du tout notre projet. Là, ouais. Je viens souvent de faire le lien, mais c'est un peu ça. Et en fait, quel est l'art du temps, peut-être par excellence? C'est la musique.
Nous allons terminer cette émission avec votre groupe, avec Catastrophe, Blandine, pour une reprise live à Radio Nova, spécialement pour la Nova Book Box, du plus grand succès de Bronski Beat, de ces londoniens New Wave. Leur succès, bien sûr, c'est cette chanson Small Town Boy, sortie en 1984, qui a connu une seconde jeunesse il y a 2 ans, en figurant sur la BO de 120 battements par minute, remixée par Robotini. Une chanson bouleversante dans sa mélodie comme dans ses paroles, qui parle, je le rappelle, de l'homophobie des petites villes via l'histoire d'un jeune gay qui s'enfuit vers la capitale en espérant y trouver davantage de tolérance. Encore une histoire d'exil intime. Vous l'avez beaucoup joué ces derniers mois en tournée, comme par exemple fin août sur la grande scène de Rock en Seine. Mother would not understand why you had to leave. Catastrophe. Reprenons Bronski Beat, c'est tout de suite sur Radio Nova.
To your soul,
to sing will never be found at home. Run away, turn away.
Small Town Boy de Bronski Beat, repris par Catastrophe. Merci au groupe d'être venu jusqu'à nous et bravo tout particulièrement donc à Arthur Navellou pour la performance vocale. Merci Blandine Rinkel, merci Louis Fang, merci à Benoît Thuot pour l'enregistrement du live. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabot.
Dimanche prochain, mon invité sera le dessinateur italien Lorenzo Mattotti pour sa merveilleuse adaptation au cinéma du classique pour enfants de Dino Buzzati, la fameuse invasion de la Sicile par les ours, en salle le 9 octobre. Kraou.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.